Ok, donc on va commencer Bezrat Hashem, on est aujourd'hui la lettre numéro 12. Donc on l'a déjà commencé la semaine dernière, je vais donner la page. On l'a déjà commencé la semaine dernière, mais comme on a des nouveaux, donc on va la recommencer. On va la recommencer rapidement. Donc on est à la page Kouf Yud Zayin, page 233. C'est écrit un peu en petit, mais on va essayer de...
233,
c'est la page après 232. Alors, aujourd'hui, on a repris un pasouk. Je vous fais un petit topo rapide de ce qu'on a expliqué au début de cette lettre. On a amené un pasouk dans Yeshaya, dans Isaïe, qui nous explique la chose suivante. D'abord, je dis la traduction du pasouk, après on va essayer de commenter. Le pasouk te dit « Ve'aya ma'ase atzdaka shalom » Va'avodat Azdaka, Ashket Uvetar Adaolam. Traduction. Le pasouk te dit, l'action de la Tzedaka amène la paix, et le travail de la Tzedaka amène la tranquillité éternelle. Donc, il a posé la question, il a dit, quelle est la différence entre l'action et le travail? A priori, action, travail, c'est la même chose. On est d'accord? On rappelle David?
Ouais.
C'est la question qu'on a posée la semaine dernière. On a dit, l'action de la Tzedaka amène la paix, et le travail de la Tzedaka amène la tranquillité. Donc il a dit, ce pasouk-là, a priori, est complètement incompréhensible. D'abord, quelle est la différence entre l'action et le travail? Et quelle est la différence entre la paix et la tranquillité? S'il y a la paix, il y a la tranquillité. S'il y a la tranquillité, il y a la paix. Ça, c'est la question qu'il a posée. Alors, on va répondre d'abord à la deuxième question. Quelle est la différence entre la tranquillité et la paix? D'accord? Ah ben oui. Et avec ça, on va comprendre la réponse à la première question. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a dit, la semaine dernière, on a expliqué, on a dit que, à Kadosh Baruch Hu, pour comprendre ce que c'est la paix, comment on peut savoir ce que c'est la paix, il faut savoir comment Kadosh Baruch Hu organise la paix. Dans quel passage on voit qu'Akadosh Baruch Hu organise la paix? C'est écrit, Osé Shalom, Bimromav. On dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il fait le shalom dans les cieux, et c'est pour ça qu'on dit, Hu Yaaseh Shalom Aleinu, Va'akol Israël, Ve'imro, Amen. Traduction de ce passage-là qu'on dit tous les jours dans la Mida. Dit, Dieu qui fait le shalom dans les cieux, lui aussi fera le shalom sur nous et sur tout Israël, on dira Amen. Alors la question qu'on se pose, on dit, mais attends, ça veut dire quoi faire le shalom dans les cieux? Pourquoi il y a la guerre là-bas? La guerre entre qui et qui? Et qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a dit que dans le ciel, il y a la guerre. C'est une bonne guerre, mais c'est une guerre quand même. Il y a la guerre entre l'ange Michaël et l'ange Gabriel. L'ange Michaël représente la bonté. C'est-à-dire que l'ange Michaël te dit, la seule manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est par la bonté. Il faut donner. L'ange Gabriel, de l'autre côté, on a dit que l'ange Gabriel représente la rigueur, la sévérité. Et l'ange Gabriel te dit non. Il te dit la seule manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est par la sévérité. Or, il te dit le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que quand tu prends les deux personnes, imagine-toi tu prends un homme et une femme, qui un est bon à 100% et l'autre est plutôt sévère à 100%, la sévérité, c'est pas une mauvaise qualité, c'est deux natures différentes, ça explose. Alors qu'est-ce qu'il dit ici?
Non, au contraire, dans un couple, une femme, ça sert.
Ah non, justement, ce qu'il va expliquer. Il dit que quand tu prends deux personnes, et que chacun est sûr de son coup à 100%, chacun est sûr. Un, il te dit, la manière de gérer, c'est par la bonté. L'autre te dit, la manière de gérer, c'est par la sévérité, c'est par la rigueur. Qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Il a donné un exemple. Il dit qu'en vérité, dans la Kabbalah, on explique que la bonté, c'est comparé à l'eau. Parce que l'eau, c'est synonyme de bracha. On donne, d'accord? L'eau, c'est la bracha. Et la rigueur, c'est comparé au feu. Parce que le feu, ça consume, le feu, ça brûle, le feu, ça consume, le feu, ça va toujours vers le haut. Ça veut toujours partir. Donc, l'eau, ça veut toujours descendre, le feu veut toujours monter. On a expliqué qu'en vérité, selon la Kabbalah, l'ange Michaël, qui est l'ange du chesed, l'ange de la bonté, est comparé à l'eau. L'ange Gabriel, qui est l'ange de la rigueur, est comparé au feu. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le monde ici-bas? Il y a toujours un combat éternel entre l'eau et, pour la première fois chez les mains, de Shmuel ben David. Dans le monde ici-bas, il y a toujours un conflit éternel entre l'eau et le feu. Et c'est soit l'un, soit l'autre qui est plus fort. Ça veut dire soit l'eau va être plus forte que le feu, donc l'eau va éteindre le feu, soit le feu va être plus fort que l'eau, et c'est l'eau qui va s'évaporer. Soit l'un, soit l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les deux sont très forts? Quand il y a beaucoup d'eau, mais il y a aussi beaucoup de feu, eh ben c'est ex aequo, il y a match nul. Ça veut dire que ni le feu il s'éteint.
Le feu est par-dessus quand même.
Ah justement, mais si t'as autant d'eau que de feu, ça veut dire que...
Non mais il n'est pas dans l'eau.
si t'as autant d'eau que de feu, ça veut dire que j'ai beaucoup d'eau, mais j'ai aussi beaucoup de feu. Et un éteint l'autre, et l'autre éteint l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un feu qui ne s'éteint jamais, mais d'un autre côté, il y a de l'eau qui ne s'éteint jamais. Eh bien, ce qu'il dit ici, c'est que dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, il a un problème avec les anges. C'est qu'il y a des anges qui représentent l'eau, il y a des anges qui représentent le feu. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que quand tu as deux personnes, par exemple, dans un couple, par exemple, il y a entre deux personnes, tu as un qui va être peut-être plus fort que l'autre. Alors, quand on dit qu'il va être plus fort que l'autre, comment ça va se passer? D'accord? Ah, attention, on a du lourd ce soir. Comment ça va se passer? On fait un résumé de la semaine dernière, là.
Tu en régies?
Ouais.
Ah, bon, d'accord, parce que j'allais dire une chose, mais...
J'enregistre pour Serge, je m'ai demandé d'enregistrer pour lui envoyer après parce qu'il
ah oui.
est en convalescence.
On lui garde un tendus.
Ah, c'est pour ça qu'on ne voit pas.
Oui, il est en convalescence. Enfin, rien de grave, mais... Voilà. Vous lui passez le bonjour, il vous entendra dans l'enregistrement parce qu'il m'a dit qu'il va l'écouter demain matin.
Bientôt. Serge, j'ai mangé tes casse-croûtes. Hein. Bah, il m'a donné l'autorisation, j'ai la preuve.
Garde ça part.
Non, il m'a dit qu'il
a... Il a fait un petit truc... Une petite opération, rien de méchant, mais bon, il doit rester un petit palité.
Les fois chez les mains,
Alors, donc j'étais en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu a un vrai problème en haut avec les anges. En général, on expliquait la semaine dernière, quand tu as un conflit entre deux personnes, il y a deux manières de gérer le conflit. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Allez, messieurs, vous revenez, on revient.
Oui.
On a dit, quand on a un conflit entre deux personnes, tu as la tranquillité et tu as la paix. Mais ça n'a rien à voir. La tranquillité et la paix, ça n'a rien à voir. C'est quoi la tranquillité? C'est que t'en as un qui va décoller une droite à l'autre. D'accord.
Merci.
Et automatiquement, l'autre, pendant 5 ans, il ne se prendra pas la tête. Jusqu'à qu'il a oublié la droite que tu lui as envoyée. Est-ce qu'il y a la tranquillité? Est-ce qu'il y a la tranquillité dans ce cas-là? Oui. Mais est-ce qu'il y a la paix?
Non.
Est-ce qu'on peut parler de paix? Non, c'est pas la paix. On peut dire qu'il te laisse la paix, mais en vérité, excusez-moi du terme, qu'il te fiche la paix.
D'accord. C'est ça.
Mais est-ce qu'on peut parler d'une vraie paix, d'un vrai shalom? Non, c'est pas du shalom. C'est un qui a été plus fort que l'autre. C'est pas ça le shalom. Ça, c'est la tranquillité. Nous, on veut quelque chose de plus fort que ça. Nous, on veut le shalom. C'est quoi le shalom? Akadosh Baruch Hu, il dit, j'aurais pu faire en sorte que l'ange Michael va être plus fort que l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel va être plus fort que l'ange Michael. J'aurais pu le faire. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas une solution viable pour moi. Pourquoi c'est pas une solution viable? Parce que faire que un écrase l'autre, ça veut pas dire qu'il y a eu le shalom. C'est-à-dire qu'un était plus fort que l'autre, et le jour où l'autre se relève, eh ben, on recommence pour une bataille. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu dit comment il fait le shalom dans les cieux, et c'est très important pour nous le comprendre. Akadosh Baruch Hu fait le shalom, il va convoquer Michael et Gabriel. Il va leur poser une question. Il va leur dire, dites-moi, pour qui vous travaillez?
Pose de boss.
Alors qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, bah, on travaille pour toi. Vous travaillez pour moi. Alors débrouillez-vous, faites le shalom. On a donné un exemple la semaine dernière, je m'arrêterai ici, après on continue dans les mots. On a dit, dans un gouvernement, tu as le ministre du budget, et on va dire, tu as le ministre de la Défense. D'accord? Donc, tu as le ministre qui est responsable du budget, et tu as le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est quoi son rôle? C'est d'acheter les meilleures armes possibles. Donc, il doit défoncer le budget. Et lui, il faut amener les meilleures protections possibles. Le ministre du budget, c'est quoi son but? C'est de restreindre le budget, d'accord? Au minimum, il faut qu'on dépense le moins possible. Donc, si tu les prends, ces deux ministres, ministre du budget, ministre de la Défense, ils peuvent pas se voir. Parce que un, il veut claquer.
Et l'autre,
il veut économiser. Comment on fait pour les calmer? C'est quand les deux vont venir devant le grand patron, devant le président, devant le roi. À l'époque, c'était un roi, dans l'exemple d'hier. On va les amener les deux devant le roi. Et que là, le roi va leur dire, écoutez, toi, monsieur ministre du budget, pour qui tu veux restreindre le budget? Pour moi. Toi, monsieur le ministre de la Défense, pour qui tu veux défoncer le budget? D'accord? Défoncer le budget. Pour qui tu veux défoncer le budget? Pour moi. Trouvez une manière de vous entendre. Et là, quand c'est vu de cet angle-là, c'est complètement différent. Bah, c'est exactement comme ça que Kadosh Baruch Hu il fait quand il veut faire le shalom entre l'ange Michael et l'ange Gabriel. Quand Akadosh Baruch Hu va les ramener. Alors maintenant, quel rapport avec notre cours? Bon, c'est très joli ce qu'on a expliqué, mais quel rapport avec notre cours? Très important.
Le
rapport maintenant qu'on veut comprendre, c'est, on a dit que dans la Tzedaka, il y a l'action de la Tzedaka qui amène le shalom, et le travail de la Tzedaka qui amène la tranquillité. Donc déjà, on a compris que entre la paix et la tranquillité, lequel on préfère?
Entre
la paix et la tranquillité, lequel vous préférez?
La tranquillité.
Ben, ça, c'est
la paix. Les deux.
Non.
L'harmonie.
Lequel est plus fort entre la paix et la tranquillité?
Les deux sont égalité.
Non. Ah, pas du tout.
Non, la paix.
Non.
Lequel est plus fort entre la paix et la tranquillité?
La tranquillité, c'est pas la paix.
D'accord, mais tu
es tranquille. Ça peut être,
la paix, c'est, tu peux c'est un petit
c'est
moment.
C'est précaire.
Non, la paix, c'est un petit moment aussi. Pourrait te laisser en paix.
Alors, bonne question qui est posée. C'est quoi un vrai shalom selon la Torah? Un vrai shalom selon la Torah, c'est pas la tranquillité. Ça veut dire, c'est possible qu'on va faire la paix, mais on va continuer à se disputer. Il n'y aura pas la tranquillité, mais on a fait la paix. Ça veut dire qu'on a décidé de travailler ensemble. D'un autre côté, tu peux avoir deux personnes qui n'ont pas fait la paix. Ils ne se supportent pas. Mais seulement, ils ont décidé de, écoute, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, on va rester tranquille. Est-ce qu'ils ont fait la paix?
Non.
Ils n'ont pas fait la paix. Ça veut dire que faire la paix, c'est pas forcément la tranquillité. Quand on fait la paix avec quelqu'un, quand on, il y a des problèmes de shalom bayit, dès qu'après on dit, voilà, ben non, on va faire la paix, ça veut pas dire pour autant qu'on puisse discuter. Au contraire, si on discute plus, c'est un problème. Seulement, ça veut dire qu'on va essayer de s'entendre. Et ça, c'est le shalom. C'est ce que Kadosh Baruch Hu nous apprend, que le combat qu'il y a entre l'ange Michaël et l'ange Gabriel, c'est un combat constant, et c'est pour ça qu'on en parle tous les jours dans notre Amida. Et vous remarquez, comment on dit dans l'Amida? On dit « Osé Shalom Mibromav ». Celui qui fait, c'est un présent, c'est pas un passé.
Oui.
Si on avait dit dans le passé, comment on aurait dû dire? Ah ça, celui qui a fait le shalom dans les cieux. Mais on dit pas au passé. On dit au présent. Chaque jour quand on fait l'Amida, le matin, l'après-midi, le soir, on dit « Osé Shalom Bibromav ». Dieu qui fait au présent le shalom dans les cieux, entre l'ange Michaël et l'ange Gabriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en haut, en vérité, il y a un conflit qui est constant, qui ne s'arrêtera jamais. Seulement, c'est quoi le shalom? C'est quand on comprend qu'on doit s'entendre et qu'il faut qu'on s'entende. Donc on va essayer de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite réussir, mais on va essayer de travailler ensemble. Ça, c'est le shalom. Osé Shalom Bibromav. Maintenant, on va passer à la tzedaka. Mais avant d'expliquer ce que je veux dire par rapport à la tzedaka, il y a une idée très importante qu'on va dire ici, qu'en vérité, tout ce qui se passe en bas est lié à quelque chose qui se passe en haut. Et que si on veut faire le shalom en haut, il faut faire le shalom en bas. Si on veut faire le shalom en bas, il faut faire le shalom en haut. Alors, pour vous illustrer ça,
on voit pas ce qui est en haut.
Alors, j'y arrive. Tashgacha Pratit. Je vais vous raconter l'histoire de Hetevet. Ce soir, on célèbre ce soir, c'est le 5 Tevet. Donc 5 Tevet, c'est le Hetevet. Le Hetevet, c'est une très grande date racidique. C'était en 1985, donc c'est tout récent, d'accord, c'est vraiment contemporain. En 1985, le rabbi, une fois dans un Fabringen, c'était le 12 Tammuz, donc c'était on est en plein été, il faisait un Fabringen, et le rabbi a lancé un scoop, il a dit, on a volé des livres de la Sifria, de la bibliothèque de mon beau-père. Bon, c'est quoi la Sifria? Il faut que je vous raconte l'histoire de cette Sifria. Enfin, déjà, c'est toute une histoire en soi. C'est des manuscrits qui étaient des manuscrits chassidiques qui passaient de maître en élève, donc de rabbi en rabbi, depuis le Baal Shem Tov. Donc on avait des manuscrits qui n'ont pas de valeur. Vraiment, il n'y a aucune...
Oui.
C'est des manuscrits qui... Donc on avait des centaines de milliers de manuscrits et de livres que le rabbi précédent, quand il est sorti de la Russie, d'accord, et qu'il devait emporter le minimum possible d'effets, il a laissé pratiquement toutes ses affaires en Russie pour amener avec lui le maximum de livres. Et d'ailleurs, il a dû laisser une grande partie de sa bibliothèque là-bas, qui est encore aujourd'hui prise en captivité par les Russes. Les Russes ne veulent pas la laisser.
Dans quelle ville?
À Moscou. D'accord? Les Russes ne veulent toujours pas. Le rabbi avait demandé qu'on fasse tout ce qu'on peut pour essayer de faire sortir cette bibliothèque. Concrètement, ils ont donné la permission de photographier. Donc on a au moins le texte des livres, mais on n'a pas les originaux.
Bon. Il y a des milliers de Sefer Torah en Irak, des milliers.
Les Russes ne veulent, parce que les Russes sont conscients de l'importance de ces livres, de la valeur de ces livres. D'accord? Ils nous laissent les voir, mais ils nous laissent pas les prendre. Donc, en tout cas.
Fauchés, ils savent à qui réclamer.
En tout cas, il y a une grande partie, donc, de ces livres qui a pu Baruch HaShem sortir, et qui est dans la Sifria du Rabbi. Sifria, c'est-à-dire la bibliothèque du Rabbi. Et donc, le bibliothécaire principal, qui est le Rav Shalom Berlevin, il s'est rendu compte, avec le temps, qu'il y a des livres qui disparaissaient. D'accord? Il y a des livres qui disparaissaient. Donc il a fait installer tout de suite des caméras plus sophistiquées que ce qu'il y avait. Et on a découvert qu'il y avait un voleur qui venait se servir. Qui était ce voleur? Qui était ce voleur? Ce voleur, c'était le petit-fils du rabbi précédent. Et ça, c'est problématique, parce que ça devient une histoire de famille. D'accord? Alors bon, on peut se dire, bon, écoute, c'est une histoire de famille. Ah, pourquoi lui prenait le livre? Parce que lui dit, moi je considère que je suis un héritier, je dois en avoir. La position du rabbi, le rabbi disait, les livres appartiennent ni à toi, ni à moi. Les livres appartiennent au chassidim, au mouvement chabad. Donc il ne faut pas les toucher. Donc a priori, vous allez me dire, bon, c'est un conflit familial, il n'y a rien de quoi faire. Eh ben non. le rabbi en a fait un drame. Quand je vous dis un drame, c'est un drame. Ça veut dire qu'il y a des chassidim qui étaient prêts à régler ça à l'ami. Bien écoutez, combien il veut de l'argent, on lui donne de l'argent, qu'est-ce qu'il y a? On paye. D'accord? On paye. Il y a des chassidim, bah, au Hachem, qui ont de quoi. Il dit, écoutez, qu'est-ce qu'il veut de l'argent? On va lui donner de l'argent. Qu'il se taise. On lui donne des millions.
Il a fait ça pour l'argent.
Lui, il a fait ça pour l'argent. Et le rabbi a dit comme ça. Écoutez bien. Alors, c'est une histoire qui a duré pendant 2 ans, avec des tribunaux et des beddines, etc. C'est très compliqué, une histoire très compliquée. Et on n'a pratiquement jamais vu le rabbi sourire pendant ces 2 ans. C'est un fait, ce que je vous dis. Hein. Ça veut dire que, à part des occasions comme Purim Simchat Torah, le rabbi était toujours très triste. Il y avait même pendant une période dans laquelle le rabbi était tellement anxieux qu'il allait visiter la tombe de son beau-père. Donc on savait que le rabbi, il allait normalement une fois par semaine, une fois par 2 semaines.
Quelle année c'était ?
D'accord ? C'était en 86-87. Donc il y avait des moments dans lesquels le rabbi allait tous les jours à la tombe de son beau-père pour prier. Et les chassidim ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est des livres. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire, tel que l'affaire est perçue en bas, ici-bas, encore une fois, on va rejoindre notre cours, c'est des livres, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, on a volé des livres, bon, en plus on a récupéré les livres. On les a récupérés parce que le juge a demandé qu'on les rende et qu'on les mette de côté, donc c'est pas la fin du monde. Et le rabbi, dans un Femme Regaine, il expliquait comme ça. Il a dit qu'en vérité, nous quand on analyse l'histoire ici-bas, on croit que c'est une simple accusation, on croit que c'est une simple histoire, on croit que c'est des livres qui ont été volés, c'est une histoire financière et c'est tout, c'est un problème qui va se régler. Le rabbi a dit pas du tout. Le rabbi a dit en vérité, c'est une accusation, bonsoir, c'est une accusation dans le ciel. Que dans le ciel, on nous accuse de ne pas assez ouvrir les livres. On nous accuse de ne pas assez étudier la chassidoute.
Ça, c'est pas faux.
D'accord ? Et comme Akadosh Baruch Hu nous accuse de ne pas assez ouvrir les livres, alors la manière qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous montrer ça, c'est en nous prenant les livres.
C'est le rabbi qui a dit ça ?
Le rabbi qui a dit ça. D'accord ? Et c'est pour ça que le rabbi n'était pas bien, parce que le rabbi dit, tant que le problème n'est pas réglé en bas, ça veut dire que le problème n'est pas réglé en haut. D'accord ? Tant que le problème n'est pas réglé en bas, que les livres ne reviennent pas à la bibliothèque, ça veut dire qu'en haut, Akadosh Baruch Hu considère qu'on n'étudie pas assez et que c'est pas bon. Et donc le rabbi, il a lancé des campagnes d'études et des campagnes pour essayer de faire qu'un maximum de personnes étudient. Et vraiment, les élèves de Yeshivot et les gens essayaient au maximum. Ça veut dire que vous avez des gens, quand on est à l'histoire de cette époque-là, ça fait pas longtemps, c'est en 86-87, vous avez des gens qui travaillaient toute la journée et qui rentraient le soir, ils étudiaient 1 heure, 2 heures, parce qu'ils ont dit, le rabbi, il a dit, il faut ouvrir les livres. Et donc les gens achetaient, ils achetaient des livres, et ils étudiaient beaucoup, et concrètement, ça changeait pas. Quel jour ça a changé ? Le 5 Tevet, 1900, d'accord ? Donc c'était le 5 Tevet Tavshin Memzaïn. 5 Tevet Tavshin Memzaïn, ça veut dire 5747, donc ça, en fait c'est fin 86, décembre 86, d'accord ? Fin 86, c'est là qu'on a reçu le verdict du juge, que le juge a tranché, d'ailleurs c'est un verdict exceptionnel, parce que pour trancher, je vous explique pourquoi c'était très compliqué à trancher. Parce qu'en vérité, c'était quoi le litige ? Le litige, c'est que le beau-frère du rabbi, lui prétendait que le patrimoine du rabbi, les livres du rabbi précédent, était un patrimoine personnel. Et le rabbi prétendait que ce qui appartient à un rabbi n'est pas personnel. Tout ce qui appartient à un rabbi appartient à la communauté. Le rabbi en soi-même ne s'appartient pas à soi-même, il appartient à la communauté. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur. C'est un personnage qui appartient entièrement au peuple. Et c'est pour ça que le rabbi disait, ben, tous ces livres appartiennent au peuple. Et donc c'était le problème, c'est que le juge n'est pas juste, d'accord ? Le juge, c'est un noir. Et quand on lit j'ai lu le verdict, d'accord ? Le verdict, c'est sur une centaine de pages. Et on voit comment le juge a réussi à comprendre ces notions qui sont très compliquées. Comprendre qu'est-ce que c'est un chassid, qu'est-ce que c'est un rabbi, qu'est-ce que ça veut dire qu'un rabbi appartient à ses chassidim, qu'est-ce que ça veut dire.
C'est un tribunal goy.
C'est un tribunal goy. D'accord ? C'est un tribunal goy.
Oui, c'était une affaire de droit commun.
Oui.
Non, je pensais qu'ils avaient fait quand même.
Non.
Il va ramener ça.
Non, c'est pas une affaire de droit commun, parce que si c'était une affaire de droit commun, ça aurait été fait par un jury.
Pardon.
Là, c'est pas par un jury.
Ils ont
c'est presque du pénal.
C'est du plein, de la plainte.
C'est de la plainte. Il y a eu une plainte, bien sûr.
C'était le 6 janvier 87.
C'était le
6 janvier
87. Ça, c'est la date dans laquelle on a reçu le verdict qu'on a gagné. Et donc là, le rabbi a proclamé Didan, je vous dis en hébreu, Didan Notzach. C'est en araméen, ça veut dire nous avons gagné. Quand on dit nous avons gagné, ça veut dire quoi ? C'est pas simplement qu'on a gagné. Voilà, ouais, connaissez-en. C'est pas qu'on a gagné, ça veut dire on a gagné physiquement, on a gagné le verdict, on a gagné les livres. Parce que encore une fois, ça c'est de l'argent, et bon, l'argent, il y avait des chassidim dès le départ qui voulaient donner cet argent. Le rabbi dit non. Le rabbi a dit, si on a gagné, ça veut dire qu'en haut on a gagné, et qu'Akadosh Baruch a estimé que la xéra a été enlevée. C'est pour ça, le jour même, le rabbi a demandé qu'on prenne un des livres qui a été libéré, un des manuscrits. C'était d'un grand rave qui a vécu dans le passé, qui s'appelait Rabbi Meir Ibn Gabay. D'accord ? Un rave très ancien, je crois qu'il a vécu en Espagne. Un livre qui n'avait jamais été imprimé. Le rabbi a demandé au chassidim, c'était le matin, on a reçu la nouvelle à 11h du matin. Le rabbi a dit au chassidim, il a dit donc à son équipe, il leur a dit, je reviens à 3h15 à Mincha, débrouillez-vous, je veux que ce manuscrit-là, il soit édité et imprimé pour 3h15. Donc imaginez-vous en 3h, course contre la montre, il fallait, parce que le rabbi a dit, si Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle, c'est pour qu'on étudie ces livres. Donc on va prendre un livre qui n'a jamais été édité. Le livre s'appelle Avodat HaKodesh. D'accord ? On a pris ce livre, et en quelques heures, dès que le rabbi est arrivé pour Mincha, le livre était déjà imprimé, d'accord ? Bon, pas relié, mais déjà imprimé avec les feuilles. Pourquoi ? Encore une fois, qu'est-ce que je vous montre avec cette histoire ? Que la manière comment le rabbi analyse la chose, c'est que quand il y a un problème qui se passe dans notre vie en bas, c'est que forcément il y a un problème en haut. Et dès que le problème est réglé en haut, automatiquement il est réglé en bas. Maintenant, on n'est pas toujours des tzadikim pour être capable de savoir quel est le problème en haut. Mais forcément il y a un problème en haut. Il n'y a rien qui se passe en bas sans qu'il y ait rien qui se passe en haut. D'accord ? C'est un message très 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 important qu'on a expliqué.
Excuse-moi.
Vas-y.
Le rabbi, en sachant que c'est son petit-fils ou
son beau-frère, ouais.
Son beau-frère, qui voulait le livre, il a quand même porté plainte.
Sûr ?
Il a pas essayé de chercher
Il voulait pas ? L'autre, il voulait pas ?
Il voulait pas comprendre.
Non, l'autre, il a dit, c'est mon héritage, je me sers, et c'est tout, on n'a rien à me dire.
Moi, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué le goy du tribunal ?
Alors, le goy du tribunal, il a marqué, il a tranché, que le rabbi appartient au chassidim. Je sais pas si vous imaginez la force de ce verdict. C'est-à-dire qu'il a, ça veut dire que le juge a compris la notion, qu'il y a une notion d'un rabbi, et qu'un rabbi, c'est quoi ? C'est une personne qui se donne entièrement pour son public. C'est pas seulement qu'il donne son patrimoine, c'est que même sa personne, il la donne entièrement au public. Donc, un rabbi n'a pas de patrimoine personnel.
Mais le beau-frère, il voulait pas aussi donner ?
Hmm ?
Il voulait pas donner aussi ?
Non. Le beau-frère, il a dit, c'est un patrimoine personnel.
Ah.
Je vais faire dans le... Désolé pour retard.
Ça va ?
Ah oui,
je vais vous chercher. Donc, maintenant on va faire un peu dans les mots.
Non, mais ça part toujours répondu.
Alors,
avec
oui.
Non,
c'est toujours répondu. Juste, là, ce qu'on a expliqué maintenant.
Et ni entre Shalom et.
Ce que je voulais expliquer maintenant, c'est pourquoi la notion, on dit Ose Shalom Mibromav, ou il y a Ose Shalom Alenu Valkol Israël Vimbro Amen. On dit Dieu qui fait le Shalom dans les cieux fera le Shalom en bas. Quel rapport entre en haut et en bas ? Il n'y a pas de rapport. Ce qui se passe en haut, se passe en haut. Ce qui se passe en bas, se passe en bas. Ce qui se passe à New York, se passe à New York. Ce qui se passe à Paris, se passe à Paris. Il te dit non. Il te dit qu'il y a un rapport très fort. Parce que dès qu'il y a un événement qui se passe en bas, il faut forcément comprendre qu'est-ce qui se passe en haut. C'est pour ça que quand on va voir un tzadik, d'accord, le tzadik est capable... Comment le tzadik fait pour régler le problème ?
Ça commence toujours par le haut, alors.
Toujours. Quand il y a un problème qui arrive en bas, ce qu'il y a en bas, c'est seulement une ombre de ce qui se passe en haut.
Mais nous, on peut pas commencer quelque chose par nos actions.
Quand tu vas voir un tzadik.
Non, je parle à quelqu'un qui fait une chose mal.
Oui.
Oui, il va créer des choses mal en haut aussi.
Bien sûr.
Donc il a créé de bas en haut.
Exactement, oui. Donc le problème est venu en haut, donc automatiquement le problème arrive en bas. Tiens, tu comprends ?
Ah, le problème est arrivé en haut, donc il va arriver en bas. D'accord.
Ok, on est d'accord ? Tiens. Donc, tu suis dans le...
Non, je suis là, tiens.
Je suis là, et plus tard, il a marqué les mêmes numéros.
Oui, pour l'instant, on a fait un résumé de la semaine dernière, on n'a pas fait dans les mots encore. Si, on a ramené l'histoire de l'ETVS quand même. Donc on est à la page 233.
C'est quel
la lettre 12.
Kaf Yud Zayn.
Voilà. Alors, ok.
C'est quoi cette application ?
C'est Tania, cherchez Tania dans l'App Store. Il y a une chanteuse qui s'appelle Tania aussi.
Ah non, c'est pas la même.
C'est le mi de
Alors, vous savez quoi maintenant ? On va prendre maintenant la page 234. Parce que ça, en vérité, on a résumé ce qu'on a fait la semaine dernière. On avait déjà commencé la semaine dernière la lettre.
Et là, on va essayer de comprendre. Pourquoi ?
D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, David ? Vas-y, David.
Quelle est la différence entre le travail de la Tzedaka
et l'action de la Tzedaka ?
D'accord.
Bon, avant d'arriver là, il faut d'abord comprendre la notion que tout ce qui se passe en bas est lié directement à ce qui se passe en haut. Vous savez, c'est comme ce qu'on a parlé dans le cours aussi de... Comme ce qu'on a parlé dans le cours de vendredi soir, dans le cours de jeudi dernier aussi, on a expliqué que quand Akadosh Baruch Hu a envoyé l'épreuve aux frères de Yosef, il leur a envoyé l'épreuve qu'ils sont venus en Égypte et qu'en Égypte ils se font emprisonner, alors qu'ils sont venus chercher à manger comme tout le monde. Il y avait des milliers de personnes qui venaient chercher à manger.
C'est pas Yosef qui a fait ?
Alors justement, mais les frères de Yosef, quand il y a ce truc-là qui leur arrive, il dit, attends, c'est bizarre, qu'est-ce que Dieu nous veut ? Pourquoi ça nous arrive ?
Ah, d'accord.
Parce qu'il part de la base, qu'il n'y a rien en bas qui arrive, d'accord ? Pour rien. Alors bien sûr que bon, après on va rentrer dans une autre définition. Est-ce qu'on croit au Aïnara, est-ce qu'on croit aux choses comme ça? Je rentre pas dedans. Ça, je rentre pas dedans. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a mis le sort ou les trucs comme ça? Ça, bon, c'est pas pour nous. D'accord? Moi, je rentre simplement dans la définition qu'il y a rien qui arrive en bas pour rien. Que si on a la, si on a la Emouna, que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, si on a la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu surveille chacun de nos pas, donc c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu est au courant de chaque chose qui nous arrive. De A jusqu'à Z. Donc s'il y a quelque chose de mal qui m'arrive, et que Akadosh Baruch Hu maîtrise la situation, forcément qu'Akadosh Baruch Hu a un message à me faire passer, sinon il n'aura pas laissé la chose. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a un message qu'Akadosh Baruch Hu veut me faire passer. Sinon, ça ne serait pas arrivé.
Ouais, mais le problème avec Yosef, c'est que c'est 20 ans après.
Oui.
20 ans.
Mais il y a toujours un message.
20 ans et demi.
Et quand on règle le problème, automatiquement on règle le problème aussi. Quand on règle le problème en haut, on règle le problème en bas. Alors, on va prendre maintenant, si vous voulez bien, on est à la page 234. Umuda Adzot. Alors on est au milieu de la page. Au milieu de la page, au point. Umuda Adzot. Alors c'est un peu petit là, c'est... mais bon, de toute façon, on va pas faire beaucoup dans les mots aujourd'hui.
Là, il y a un
Umuda Adzot, c'est connu. Ma Shamru Rabotenu Zichonam Livracha. C'est connu ce que les Chachamim ont dit. Que Kol Aosek Batora Lishma. Tout celui. Tu vois?
Il n'y a pas Kol.
Al. Kol Aosek.
Vous avez? Tu as Kol?
Non. Il n'y a pas Kol.
Al.
Shamru.
Umuda Adzot. Ma Shamru Kol Aosek Batora Lishma Messim Shalom.
On n'a pas Kol.
Ah, c'est écrit Kol. Bon, Shema c'est écrit Kol, ok. Donc, Kol Osek Lishma, tout celui qui étudie la Torah Lishma, je vais expliquer tout ce que ça veut dire. Messim Shalom, Bepamalia Shelmala, ou Bepamalia Shelmata. Il fait le Shalom dans l'équipe du ciel et dans l'équipe de la terre. Alors d'abord, je vais expliquer, il y a plusieurs notions à expliquer. D'abord, c'est quoi l'équipe du ciel, c'est quoi l'équipe du terre, c'est quoi, c'est des équipes de foot. D'accord? Et c'est quoi d'abord étudier la Torah Lishma? Très important ce qu'on va expliquer ici. On peut étudier la Torah chez l'Olishma et on peut étudier la Torah Lishma. C'est quoi la différence? Étudier la Torah chez l'Olishma, ça veut dire étudier la Torah pas pour un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a des fois des personnes qui vont venir à un cours pas pour le cours.
Comme ici.
D'accord, non, Chas
v'Shalom.
J'explique l'exemple. C'est quoi l'exemple? Par exemple, l'exemple que la Gemara amène, c'est une personne qui va étudier la Torah parce qu'il est attiré par la science. Il est attiré par les choses intéressantes.
C'est une approche
intellectuelle. D'accord? Ah, c'est une approche intellectuelle. Mais qu'après, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, je te donne un exemple. Ça veut dire que tu vas avoir une personne qui étudie la halakha, il va venir à un cours de Torah avec les conclusions halakhiques, etc. Il va dire, ah, c'est bien beau, c'est intéressant et tout. Après, on lui dit, ah, bah alors, voilà, c'est intéressant, il faut passer à l'action. Il dit, non, non. Moi, juste, je kiffe le développement. Mais ça reste dans la tête.
C'est une philosophie.
Ça s'appelle étudier la Torah chez l'Olishma. Ça veut dire, c'est quoi chez l'Olishma? Ça s'appelle une étude qui n'est pas pour la Torah.
Sans comprendre.
D'accord? Non, je
comprends.
Non, il comprend la Torah.
Il comprend, mais c'est...
Mais c'est pas pour la Torah, c'est pas l'étude pour l'étude.
C'est le côté théorique.
C'est l'étude pour moi. J'étudie pas la Torah pour Dieu.
Déjà pas mal, déjà.
Juste pour comprendre.
J'étudie la Torah pour moi. Parce que j'ai envie de kiffer.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Attention, c'est
d'accord?
Pas mal.
D'accord? La Gemara pose la question là-bas, elle dit, si une personne n'est pas intéressée par la Torah, et que la seule manière qu'on arrive à l'intéresser, c'est par le côté scientifique. Est-ce que, on lui dit ne le fais pas parce que ça se fait pas, ou bien on lui dit commence quand même. La Gemara là-bas dit c'est pas grave, laisse-le commencer comme ça, et une fois qu'il sera lancé déjà, après on passera à la suite. Mais concrètement, te dit la Gemara qu'il faut aspirer à étudier la Torah, l'Ishma. Ça veut dire étudier la Torah, pas par intérêt, mais étudier la Torah pour Akadosh Baruch Hu, pour se dire comment je veux mieux accomplir une halakha, comment je veux mieux me comporter dans ma vie, pas pour mon kiff à moi, pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez que surtout on a ce piège-là quand on étudie la Gemara. Quand on étudie la Gemara, c'est très difficile parce que tu éprouves beaucoup de plaisir. C'est très intéressant. Alors quand on te dit, tu sais, tu n'étudies pas pour ton plaisir, mais tu étudies pour Dieu, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, c'est très compliqué parce que tu étudies, tu kiffes, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et ben, c'est là ce qu'il te dit ici. Tu dis ici, Kadosh Baruch Hu, il donne un srar, un salaire particulier, à celui qui fait un effort chaque fois qu'il étudie, de se poser la question, quel enseignement je vais en tirer pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a des cours dans lesquels il n'y a pas forcément d'enseignement. Oh, j'étudie un cours, ça sent intéressant, c'est sympa, c'est tout. Eh ben, il te dit comme ça. Il te dit, Kol Aosek Batora Lishma. Tout celui qui se préoccupe d'étudier la Torah Lishma, ça veut dire d'étudier la Torah pour Akadosh Baruch Hu, vous remarquez que la Gemara nous emploie le terme Osek. Osek, en hébreu, ça veut dire du mot Esek. Esek, en hébreu, c'est quoi? C'est une affaire.
Occupation.
Ça veut dire que c'est très difficile d'arriver à ce niveau-là. C'est comme une affaire, c'est comme un business. Ça veut dire que un business, ça tombe pas du ciel. Si tu veux que ça marche, il faut travailler. D'accord? De la même manière, une personne qui veut réussir à arriver à un niveau comme ça, que il va étudier la Torah et qu'il le fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme un business, c'est-à-dire ça tombe pas du ciel, il faut travailler pour ça. Le cadeau que Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est quoi? Messim shalom bepamalia shelmala ou bepamalia shelmata. Il fait le shalom dans l'équipe d'en haut et dans l'équipe d'en bas. C'est quoi l'équipe d'en haut? L'équipe d'en haut, il explique. On va commencer par l'équipe d'en haut. C'est quoi pamalia shelmala? Pamalia, c'est en araméen, ça veut dire une équipe. Pamalia shelmala, em asarim veamidot aniskarim leel, she'en aechalot elyonim beolam abriya shebezoar akadosh. Et tu dis, tu sais, c'est quoi l'équipe du haut? L'équipe du haut, c'est les anges qu'on a parlé au début du cours. Vous vous rappelez, au début du cours, on a dit, il y a une équipe qui est gérée par Michael. D'accord, voilà, Michael. Oui. Voilà. Et une équipe qui est gérée par Gabriel. L'équipe qui est gérée par Michael représente la bonté. L'équipe qui est gérée par Gabriel représente la rigueur. D'accord? Et on a expliqué qu'il y a un conflit constant entre Michael et Gabriel. Michael et Gabriel, donc avec tous les... Eux, c'est les chefs d'équipe, quoi. Eux, c'est les chefs de file. Mais derrière eux, il y a des milliers, des millions d'anges. C'est écrit là-bas, des millions de groupes d'anges qui sont derrière eux. Et qui les suivent. Et donc, il y a toujours un conflit constant. Comment servir à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu par la bonté? Ou est-ce qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu par la rigueur? On avait expliqué la semaine dernière qu'en vérité, c'est deux midotes qui sont complètement contradictoires. C'est comme si on voit dans un couple, d'accord? T'en as un qui te dit la bonté, il faut claquer au maximum. Et t'en as un autre qui te dit la rigueur, il faut garder au maximum. Tu mets les deux personnes dans la même pièce, et les deux sont chauffés à bloc, ça explose.
Ah, d'accord avec toi, parce qu'un couple, s'il n'y a pas des deux...
Alors, oui, mais le problème, c'est comment tu... Les deux, imagine-toi, les deux, tu les chauffes à bloc, ils sont les deux à 100%, et tu les mets les deux dans la même pièce. Maintenant, il y a un budget, il n'y a pas deux budgets. Oui, tu comprends, s'il y avait un budget pour chacun, bon, chacun se débrouille avec son budget, et c'est fini. Mais si t'as un budget, t'as un compte commun, et les deux ils sont chauffés à bloc, un il dit il faut garder à fond, l'autre il dit il faut dépenser à fond.
Bah tu sais parler.
Oui, mais ils vont trouver un compromis.
Eh ben non, il n'y a pas de compromis.
Mais si, ils vont trouver un compromis.
C'est
si,
quoi le compromis?
Le compromis, c'est s'ils sont tous les deux Meknassi.
Non, ils vont trouver un compromis.
C'est quoi le compromis?
C'est pour ça qu'à un coup, je dis qu'il faut qu'il y ait un...
Oui, oui, c'est vrai, en plus, il y en a un qui parle de complémentarité. De complémentarité, là, c'est opposé.
Il y a toujours un qui est plus dur, un qui est moins dur. Heureusement, parce que sinon, ça ne marcherait pas aussi bien.
Bon, c'est bon.
Parce qu'il y en a un qui...
Alors, c'est quoi la complémentarité?
Ils font l'équilibre.
C'est quoi la complémentarité?
Il y en a un, après la fin, ils sont d'accord qu'il faut bien... Il y en a un qui va dire, bon, c'est sûr qu'il faut tout dépenser. Non, parce qu'il y a encore plein de choses encore derrière nous à garder. Il faut garder un peu pour le truc. Donc, à la fin, il va dire, bon, on va faire la moitié.
Je rappelle, Yves en a expliqué la semaine dernière, on avait expliqué qu'en vérité, entre Chesed et Gvura, entre la bonté et la rigueur, tu as une mida qu'on appelle Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, c'est la beauté. On avait expliqué la chose suivante, quelque chose de magnifique. On avait dit que, qu'est-ce qui fait la beauté des choses? C'est le contraste des couleurs. Ça veut dire que par exemple, si tu prends un objet, par exemple, si je m'habille tout en blanc, bon, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui fait la beauté? C'est quand il y a un contraste, c'est que tu as du blanc, du noir. C'est ça ce qui fait la beauté. Quand tu vois un tableau, qu'est-ce qui fait la beauté d'un tableau? C'est le contraste des couleurs. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une musique, encore une fois? C'est le contraste des notes. Ça veut dire que le contraste, quand on sait l'utiliser, comme il faut, non seulement qu'il ne fait pas une contradiction, mais au contraire, c'est ça ce qui va amener la beauté. Mais il faut être capable de le faire. Il faut savoir marier. J'y arrive. C'est ce que je voulais expliquer. D'accord? Il dit comme ça. Il dit qu'entre l'ange Michael et l'ange Gabriel, il y a une guerre constante. Une guerre constante. Comment servir à Kadosh Baruch Hu? Et c'est une guerre qui n'est jamais résolue. À Kadosh Baruch Hu essaye de faire le shalom. Mais il y a toujours une guerre constante. L'ange Michael dit, il faut donner au maximum aux hommes, même ceux qui ne sont pas méritants. L'ange Gabriel dit non, ceux qui sont pas méritants, quand tu lui donnes, tu lui rends pas service. Qui a raison? Les deux ont raison. Alors concrètement, il faut donner ou il faut pas donner? Vous imaginez, ça veut dire que maintenant, concrètement, on a ici un homme en bas qui n'est pas méritant. Et les anges se posent la question, est-ce qu'on lui envoie ou on lui envoie pas? L'ange Michael avec son équipe te dit, on envoie quand même, chesed. L'ange Gabriel te dit, on envoie pas, tu lui rends pas service en lui donnant. Il faut qu'il comprenne un peu qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait?
Pour ça, un jour sur Dongen.
Alors on te dit comme ça. On te dit que les anges en haut n'arrivent pas à résoudre le problème. Qui c'est qui va résoudre le problème? C'est nous. Comment on va résoudre le problème? Quand on va étudier la Torah à l'Ishma. Quand on va montrer à Kadosh Baruch Hu que on va étudier la Torah et que dans notre étude de la Torah, on va pas chercher notre intérêt, mais on va chercher l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Là, les anges, quand ils vont voir ça, ils vont dire, attends, vous avez vu celui-là? Il est en train d'étudier quelque chose, c'est intéressant. Il cherche pas son intérêt, il cherche l'intérêt de Dieu. Alors les anges vont se poser la question, ils vont se dire, attends, finalement, quand on défend notre point de vue, Quand moi, l'ange Michael, je défends le point de vue qui dit qu'il faut avoir la bonté. Moi, l'ange Gabriel, je défends le point de vue qui dit qu'il faut avoir la sévérité. Est-ce que finalement, on pense pas un peu trop à nous? Est-ce qu'on ne devrait pas plus penser à Kadosh Baruch Hu? Qui c'est qui fait le shalom entre les anges? C'est nous. D'accord? C'est extraordinaire. D'accord? Osé shalom ibromav, ou yaasé shalom alenu va kol Israël imru amen. On a dit que osé shalom, c'est au présent. C'est Dieu qui fait le shalom. Comment Dieu fait le shalom? Pourquoi on nous en parle? Parce qu'en vérité, qui c'est qui permet à Kadosh Baruch Hu de faire le shalom? À Kadosh Baruch Hu, pour forcer les anges à faire le shalom, il montre l'exemple des hommes. Il leur dit, regardez, vous voyez ces hommes? Eux, ils se sont préoccupés de mon intérêt à moi. Ils ont mis de côté leur intérêt et ils sont partis chercher mon intérêt. Alors vous aussi, mettez de côté vos intérêts et posez-vous la question, comment vous allez marier vos intérêts pour mieux me servir? Comment Kadosh Baruch Hu fait? Il montre l'exemple des hommes. Voilà pourquoi la Gemara te dit que celui qui étudie la Torah l'Ishma, celui qui étudie la Torah l'Ishma, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah pas pour son intérêt, il étudie la Torah pour l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, eh ben il fait le shalom en haut. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez, même un homme qui comprend pas comme vous, il fait le shalom. Il met de côté ses intérêts. Vous aussi, vous devez mettre de côté vos intérêts.
C'est quoi l'intérêt pour Akadosh Baruch
Hu? Ça veut dire que les anges, ils ont chacun leur intérêt.
Non, mais quand on étudie pour l'intérêt de quoi,
ça veut dire que normalement, dans la vie, on a toujours des intérêts. On cherche toujours nos intérêts. Ça veut dire nos intérêts, c'est nos plaisirs. Par exemple, tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais Shabbat.
Oui, là, tu peux comprendre parce que.
Alors attendez, je vous pose la question. Attendez.
Dire, je me repose,
non, je vous pose une question honnête. Répondez-moi honnêtement. Oui. Vous faites Shabbat pour Dieu ou pour vous?
Je suis pas incapable de te répondre comme ça.
Vous voyez, c'est une question difficile. Une question très difficile. Parce que.
À la base, je l'ai fait pour Dieu.
Mais maintenant, aujourd'hui.
J'en tire un intérêt, mais
quelque chose d'important. On s'abat pour Dieu ou pour nous?
Mais non, au départ, c'est un commandement.
En même temps.
Donc, c'est pour moi ou pour Dieu?
Parce que c'est un commandement aussi, surtout.
C'est une question très compliquée.
C'est Dieu qui a dit que
c'est un commandement.
J'ai compris. Mais pourquoi tu le fais maintenant?
Aujourd'hui,
attends, je vais te dire.
On se pose pas la question, finalement.
Avant, je faisais pas.
D'accord.
D'accord. Je voyais les clients.
Ouais.
J'étais mal à l'aise. Ce mal à l'aise, il grandissait. Chaque jour, chaque Shabbat de chaque année, c'était comme un verre qui remplissait de gouttes que je peux plus les voir.
D'accord. Alors,
il y a un jour, l'eau de ce verre-là, il a débordé. J'ai dit stop, stam.
D'accord. Maintenant, je pose la question.
Maintenant, je sais pas.
Voilà, c'est ça la question. Quand tu as craqué, le jour où tu as craqué, tu as bien craqué.
Mon Dieu.
Voilà. Le jour où tu as craqué. C'était à Kadosh Baruch Hu, mais maintenant, aujourd'hui, c'est très compliqué.
Maintenant, aujourd'hui, je vais te dire une chose. On me propose 1 milliard, je vais pas. Voilà.
Enfin, je trouve que c'est une détermination.
Mais la question,
c'est sûr qu'il y a un intérêt personnel, j'en en tire.
Il y a toujours un intérêt personnel.
Bien sûr, j'en tire toujours un intérêt personnel.
Voilà.
Mandy, si tu parles de satisfaction, c'est clair que quand tu fais Shabbat, tu as une satisfaction. Alors, c'est vrai que la question, c'est de savoir, est-ce que tu as une satisfaction par rapport à Dieu, ou tu le fais par rapport à toi?
C'est quoi? C'est que toujours, dans une mitzvah, d'accord? Toujours dans une mitzvah, il y a toujours un détail qui est compliqué. Je voudrais juste expliquer. Toujours dans une mitzvah, il y a un détail qui est intéressant, mais il y a des détails qui sont compliqués. Je donne l'exemple du Shabbat. Bien sûr que le Shabbat, c'est intéressant. On aime bien faire le repas en famille. On aime bien qu'il y ait un jour où on se repose, d'accord? On aime bien qu'il y ait un jour pour la famille, un jour pour Dieu. C'est intéressant, c'est sympa. Ça, c'est clair, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais il y a toujours des détails qui sont contraignants. D'accord? Comme par exemple, on te dit, une personne, il habite au 20e étage. Et on lui dit, tu dois monter à pied. Jusqu'à la fin de ses jours, s'il habite au 20e étage, chaque fois qu'il montera, ça sera casse-pied. Jamais il dira, ah mon Dieu, merci de me faire monter 20 étages. Donc ça, ce détail-là, il sera à l'Ishma. Ça veut dire que je peux vous garantir que quand il monte les étages, il dit, Dieu, je te garantis ça, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour toi. Et c'est ce qu'il faut, dans une mitzvah, il faut toujours chercher le détail qui est pour Dieu, qui est l'Ishma. L'Ishma, ça veut dire pour la mitzvah, pas pour moi. Je le fais parce que c'est la mitzvah. Dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. Dans toutes les mitzvot, il y a des détails. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous permettre de prendre du plaisir. Mais il y a un détail dans lequel on kiffe pas. D'accord? On va prendre un exemple. Voilà, on vient à un cours de Torah. D'accord? Voilà, David, il nous a fait les... David, il nous a fait... T'as dit la semaine prochaine sushi, David?
Les clubs sans doute.
Ils reviennent tous.
C'est pas facile, Tania. La vérité, je savais pas que c'était facile. Après, j'ai une question à la fin à te poser. Que c'est...
Ils m'envoient tous, c'est un peu personnel.
Non, c'est pas personnel. C'est...
C'est en rapport avec ça?
Ah, bien sûr, c'est en rapport avec ce livre.
Non, ah d'accord, en rapport avec le sujet?
Non,
ah d'accord, après, dans ce cas-là. D'accord?
Plus généralement sur le Tania.
D'accord, avec plaisir. Donc, on était en train d'expliquer qu'il y a toujours c'est quoi la notion de faire une mitzvah lishma. La notion de faire une mitzvah lishma, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu que je mets de côté mes intérêts. Voilà. Donc toujours dans une mitzvah, il y a toujours cette notion.
Quand j'ai fait le Shabbat, j'ai mis de côté le chiffre d'affaires. On m'a dit, comment tu vas faire pour le chiffre d'affaires?
Donc t'as mis de côté, voilà. Donc t'as mis de côté ton intérêt.
Je mangerai des pâtes, c'est tout.
T'as mis de côté ton intérêt pour l'intérêt d'Akadosh Baruch
Hu.
Et ben on dit que quand une personne fait ça, il fait le shalom également dans le ciel. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à ses anges, il leur dit, c'est extraordinaire ce qu'on dit ici. Nous, on croyait toujours que c'est les anges qui faisaient le programme en bas. Là, on t'apprend ici que c'est nous qui organisons le programme en haut. Qu'en haut, il y a un programme qui tourne, il y a des équipes qui sont là, qui s'affrontent, bon, le Michael, Gabriel, etc. Et que, ils sont un peu en ex-écho, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'arrive pas à faire le shalom, puisque chacun est sûr de ses positions. C'est pas des gens qui ont envie comme ça de faire la guerre. Chacun est sûr de ses positions. Un, il te dit, il faut donner, l'autre, il te dit, il faut pas donner. Et chacun t'explique pourquoi. Ils sont sûrs de leur position. Et que la seule manière de faire le shalom entre eux, c'est nous qui faisons le shalom entre eux. Quand nous, on montre qu'on met de côté nos intérêts, Akadosh Baruch Hu de regarder les hommes. Ils n'ont pas la compréhension que vous avez, et quand même, ils sont capables de mettre de côté leur intérêt pour penser à moi. Vous aussi, débrouillez-vous, faites le shalom. D'accord ? Vas-y.
Tu peux dire aussi, c'est comme un enfant.
Oui.
Un enfant, un adulte comprend la chose, donc il est sûr de celui-même qu'un enfant, il pourra accepter et mettre de côté. Tu vois, je vais te dire ou pas ? Donc on peut dire, l'être humain, justement, comme son niveau de truc n'est pas assez élevé, c'est pour ça qu'il rêve de mes côtés. Mais s'il aurait mon idée à moi, il l'aurait pas mis de côté.
J'ai compris. Mais je te donne un exemple. Imagine-toi, par exemple, que tu as un pauvre ici qui m'a demandé la tzedaka.
Ouais.
Et tu as un enfant qui va lui donner 5 euros. Son argent de poche, il a ramassé, etc. Il va lui donner 5 euros. Toi, tu vas le voir, tu vas dire, si déjà l'enfant qui n'a pas beaucoup a donné 5 euros, à plus forte raison que moi, je dois donner au moins 5 euros. Parce que j'ai beaucoup plus que lui et je peux donner beaucoup plus que lui.
Et surtout pour lui, c'est énorme.
Et surtout pour lui, c'est la même chose que Kadosh Baruch Hu dit aux anges. Je dis, regardez. Pour les hommes, mettre de côté leur intérêt, c'est beaucoup plus difficile que pour vous. Parce que vous, vous êtes dans le coup. Je suis là, vous me voyez, vous me ressentez. Mais eux, les hommes, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et un homme qui arrive à mettre de côté ses intérêts, pour moi, pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, vous êtes obligé de trouver un compromis, vous aussi, de vous arranger. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fait le shalom. D'accord ? Entre Michael et Gabriel. Ça, c'est le shalom dans l'équipe d'en haut. Alors, c'est quoi l'équipe d'en bas ? Famalia Shelmata. En aechalot atartonim ou yifrat olamazé. Je vais un peu vite parce que je vais expliquer à l'oral tout de suite. Olamazé ashafel amourav tov vera mechet adam arishon vehara sholet alatov ke moshe katoub asher shalat adam be adam gomer. C'est extraordinaire ce qu'il va dire ici. Il dit en vérité, donc on a dit il y a le shalom en haut. On a compris la guerre qu'il y avait en haut. Mais tu dis il y a la même guerre en bas. La guerre qui est en bas, c'est entre qui et qui? Là, c'est plus compliqué. C'est pas entre deux forces du bien, mais t'as une force du bien qui veut faire d'une manière, une autre force qui veut faire d'une autre manière. Là, la guerre qui est en bas, c'est la guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Malheureusement, alors ça on le connaît tous dans notre vie, d'accord ? Entre la guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Maintenant, le problème qu'on a, c'est quoi ? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde d'une manière que par défaut, qui est plus fort que qui ? C'est le mal. Le mal est plus fort, il dit clairement ici, il dit « Vehara Sholet Alatov ». Non seulement que le mal est plus fort que le bien, mais le mal maîtrise le bien. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu a créé le monde. On est comme ça. D'accord ? C'est écrit par exemple que les enfants, depuis qu'ils sont petits, on est égoïste. Vous avez remarqué, je donne toujours cet exemple, un enfant, tu lui donnes pas son moment, il se met à hurler. Il dérange tout le monde. Tu crois qu'il se rend pas compte qu'il dérange tout le monde, l'enfant ? Il en a rien à faire. Parce que lui, pour lui, mon bonbon passe avant tout le monde. Tu crois que l'enfant se rend pas compte qu'il dérange tout le monde ? Il se rend compte à 100%. Il voit qu'il dérange tout le monde. La preuve, c'est qu'il sait très bien quand s'arrêter. D'accord. Non, il sait très bien quand forcer, quand pas forcer. J'ai toujours dit, vous avez remarqué que quand les parents s'accrochent dans la voiture, les enfants, tu les entends pas.
Comment ça se fait ?
Comment ça se fait ? Un problème ? Vous avez déjà remarqué ça ou pas ? Tout d'un coup, quand les parents s'accrochent, les enfants, tu n'entends plus rien derrière dans la voiture.
Hein ?
On est d'accord, hein ? Personne, tout le monde est d'accord. On est tous passés par là. Hein ?
On s'accroche pas.
Non, pas s'accrocher, mais bon. D'accord ? Quand t'es des différents, les enfants, tu les entends pas. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Parce que les enfants, ils savent très très bien ressentir les choses. Seulement quoi ? Un enfant né égoïste. Et de là, on voit que par définition, le mal est plus fort que le bien. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara, il est en action depuis la naissance. Le Yetzer Tov, il va commencer à se mettre en action seulement depuis la Bar Mitzvah. Donc le Yetzer Hara, il a 13 ans d'avance. Donc il connaît le terrain parfaitement. Donc là, on a un problème qui est plus fort que chez les anges. Chez les anges encore, l'ange Michael, l'ange Gabriel, il était ex aequo. Alors ex aequo, c'était toujours match nul parce que toujours un était plus fort que l'autre, l'autre était plus fort que l'un. C'est-à-dire ils étaient les deux au même niveau, comme l'eau et le feu. Ni l'eau arrive à éteindre le feu, ni le feu arrive à éteindre l'eau, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais en bas, c'est plus compliqué. En bas, c'est presque impossible de faire le shalom, parce qu'a priori, le mal a déjà le dessus sur le bien. Il a déjà une avance, il est déjà plus fort. Comme Moshe Katoub, comme c'est écrit, Asher Shalat, c'est écrit dans Kohelet, dans le spécialiste, c'est écrit, Asher Shalat à Adam, ba Adam, que l'homme maîtrise l'homme. Donc de qui on parle quand on dit l'homme maîtrise l'homme, c'est le côté négatif de l'homme qui maîtrise le côté positif, et c'est comme ça chez l'homme. Ou les hommes, mille hommes yémat. Ah, tu vas me dire, mais des fois je vois que on arrive quand même à faire des mitzvot, tu dis ça, ça veut rien dire. Ça, on l'apprend de Esav. Vous savez que quand Yaakov et Esav sont nés, à Kadosh Baruch Hu, il avait dit, ou les hommes, mille hommes yémat. Il a dit qu'il y aura toujours un qui sera plus fort que l'autre. Et quand un il sera en haut, l'autre sera en bas. Quand un sera en bas, l'autre sera en haut. C'est comme ça. Donc il avait dit ça à propos de Yaakov et Esav. Et de là, les Chachamim apprennent dans la Gemara, hein, qu'en vérité, Yaakov et Esav, c'est l'image du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. C'est la même chose. Qu'avec le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est une tendance.
C'est une balance que tu nous as.
C'est une balance, d'accord. Donc des fois le Yetzer Tov sera plus fort, des fois le Yetzer Hara sera plus fort, mais par défaut, qui sera plus fort?
Ah,
le Yetzer Hara. C'est-à-dire des fois tu arrives à mettre un coup sur la balance côté Yetzer Tov, donc du coup le Yetzer Hara, bon bah il est à plat, mais il va forcément revenir et il sera plus fort. Il est plus fort. Alors, comment on fait le shalom? D'accord. Comment on arrive à faire le shalom? Alors, je vais expliquer ici. Mais Kanire Berhouch, Béadam Atartan. D'abord, il va expliquer sur cette fameuse guerre qui est en bas, qui est très important, parce que là, ce cours est lié aux événements du Etevet, parce que tout à l'heure, on a expliqué que le Etevet nous montre qu'un événement qui se passe en bas est forcément lié à un événement qui se passe en haut. Et là, on va le voir, Mamaj, dans ce qu'il va expliquer. Mais Kanire Berhouch, Béadam Atartan, Anikra Beshop Olam Katan. Comme on le voit chez l'homme, qui est en bas, donc chez nous, l'homme est appelé un petit monde, donc on appelle ça un microcosme, d'accord? Shelif Amim Atov Gover, Velif Amim Efer Chasve Shalom. Des fois, chez l'homme, c'est le bien qui est plus fort. Des fois, c'est le contraire, Chasve Shalom. Qui c'est qui est plus fort? C'est le mal. Ve'ein Shalom Ba'olam Ad Et Ketz. Alors, autant le dire tout de suite. Il n'y aura jamais le shalom dans le monde tant que Mashiach n'est pas là.
Le 21.
Jamais. Le vrai shalom n'existera jamais tant que Mashiach n'est pas là. Le vrai shalom n'existera jamais dans le monde.
Quoi?
D'accord? Le vrai shalom n'existera jamais chez l'homme. Ça veut dire que il n'y a jamais le shalom entre les nations. Et là, je reviens à la notion que j'ai expliquée tout à l'heure. J'ai dit, la tranquillité, c'est pas le shalom. On peut avoir deux personnes qui ne se supportent pas, mais qui ont décidé, pour mieux vivre, de ne pas se bagarrer. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait le shalom? Non. Est-ce qu'ils auront la tranquillité? Oui. La tranquillité, on peut l'avoir, mais le shalom, non. Il te dit ici comme ça. Il te dit clairement. Il te dit, le shalom entre les forces du bien et les forces du mal, on ne l'aura jamais ici-bas. Ça, c'est dans le grand monde. Ça veut dire entre les pays qui représentent le mal et les pays qui représentent le bien, si on pouvait trouver des pays comme ça, il n'y aura jamais, jamais le shalom. Au maximum, on trouvera la tranquillité, mais jamais le shalom. Eh bien, il te dit, c'est exactement la même chose dans le petit monde. Le petit monde, c'est l'homme. Le petit monde, tu as le bien, tu as le mal. On peut arriver à des moments de tranquillité. C'est-à-dire des moments dans lesquels le Yetzer Hara, il dit bon, je te laisse tranquille, le Yetzer Tov dit, je te laisse tranquille. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils font des Averot, ils font des Averot, quand ils font des Mitzvot, ils font des Mitzvot. Et ils essayent que le Yetzer Hara n'empiète pas sur le Yetzer Tov, et le Yetzer Tov n'empiète pas sur le Yetzer Hara. Du style, quand on est à la synagogue, on est à la synagogue, quand on est dehors, on est dehors. Voilà, donc on a une sorte de tranquillité. Ça veut dire, tu prends pas la tête quand je suis à la synagogue, et pendant mon Shabbat, et je te prends pas la tête quand tu en es dans les affaires. Il y a des gens qui sont comme ça, on peut être comme ça.
C'est de la schizophrénie.
D'accord. La schizophrénie, vous voyez, on peut dire que c'est la schizophrénie. Il n'y aura jamais de vrai shalom. Quand ma chère viendra, Ve'azai, it pardou, kol po ale aven, ve roi chatouma yavamina arech, it barem et toho prinata tov amchaye, ou birurze, yé gamgen, elle était kilouï, et le couteau les matins. Voilà, donc je vais expliquer maintenant ce qu'il dit ici. Il dit comme ça. Il dit, on a un problème. On a deux conflits. Voilà, maintenant on va avoir une image générale de ce qu'on va expliquer. On a deux conflits. On a un conflit en haut, un conflit en bas. Un conflit en haut entre les Malach Michael, Malach Gabriel, Chesed d'un côté, de l'autre côté, Vora. L'eau et le feu. Et donc a priori c'est un conflit qui ne peut pas être résolu, qui ne pourra jamais être résolu, puisque les deux sont aussi forts l'un que l'autre. Et on a un autre conflit en bas, entre les forces du bien, les forces du mal. C'est un conflit qui a lieu et chez l'homme, dans le petit monde, et dans le grand monde, entre les forces du bien, les forces du mal. Sauf qu'à la différence du conflit d'en haut, le mal, par défaut, est plus fort que le bien. Ce conflit, a priori, ne peut jamais être résolu aussi. Tant que ma chère n'est pas là, il ne peut pas être résolu. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit ici maintenant, quand un juif, il va mettre de côté ses intérêts. Il va mettre de côté ses intérêts, ça veut dire qu'il va montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'étudie la Torah, je fais une mitzvah, je mets de côté mes intérêts, je fais cette mitzvah pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et, vous savez, on peut donner cet exemple-là, puisqu'on va parler de la Tzedaka après. Dans la Tzedaka, on donne un exemple, une fois le Rav Goutni, qui est un grand donateur, quelqu'un qui est dans les mines en Australie, il avait posé la question au Rabbi, il a dit, Rabbi, jusqu'à combien on doit donner la Tzedaka?
Mine de quoi?
D'accord?
Mine de diamant.
Je sais pas, mine de tout, je sais pas, il fait tout là-bas.
Mine de rien.
C'est pas lui qui a levé la main, c'est pas lui.
Non, je crois pas que, non. Alors, il a posé la question au Rabbi, une fois il est passé pour prendre le dollar du Rabbi, et il a demandé au Rabbi, il a dit, Rabbi, jusqu'à où on allait dans la Tzedaka? Bon, ça veut dire que bon, il donnait. Je peux vous dire qu'à ce stade-là, il avait déjà fondé des dizaines de yeshivot. C'est-à-dire quand vous allez en Israël, j'ai vu de mes propres yeux des yeshivot, des mikvaot, des salles de fête, Goutnik, toujours il faisait au nom de sa mère, au nom de son père, etc. Alors il a dit au Rabbi, jusqu'à où on doit aller? Et le Rabbi lui a répondu, il lui a dit, jusqu'à que ça te fasse mal.
Juste avant de partir en Belgique.
J'explique ce que ça veut dire. Tant que tu sens pas que tu as fait un effort, c'est que tu peux continuer. Et c'est là la notion que je vais expliquer. C'est quoi la notion de faire l'effort? Quand tu fais un effort, ça veut dire que là, tu dis, je le fais pour Dieu.
Oui.
C'est là l'effort. Tu dis, ah, ça y est, stop. Et tu dis, ah, je rajoute même un franc.
Bien sûr.
Mais je l'ai fait pour Dieu.
Non, t'as pas envie de donner.
C'est ce petit détail que tu vas rajouter, là tu l'as fait pour Akadash Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un montre qu'il met de côté ses intérêts pour Akadash Baruch Hu, qu'est-ce que fait Akadash Baruch Hu? Akadash Baruch Hu fait le shalom, on a dit, entre eux, les anges, Michael et Gabriel. On dit, regardez celui-là en bas, il était capable de mettre de côté ses intérêts pour moi. Vous aussi mettez de côté vos intérêts pour moi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Par ricochet, ça va revenir chez l'homme. Que puisqu'il y a eu le shalom en haut, automatiquement, ça va aider l'homme à faire gagner les forces du bien sur les forces du mal. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ici? Il y a une dynamique, ça veut dire on a fait un aller-retour. On a fait aller, retour, aller. D'accord, on a fait un boomerang.
Donc là, oui, ils n'aideront jamais le mal.
Ça veut dire qu'en vérité, normalement, a priori, on avait ici un conflit qui est ingérable, et en haut et en bas. C'est ingérable. Et quelle est l'étincelle qui va tout déclencher, qui va tout faire sauter? C'est quand un juif va venir et il va faire une mitzvah en bas dans laquelle il met de côté ses intérêts, il a fait pour un Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit aux anges, il dit, regardez, il a mis de côté ses intérêts, faites le shalom vous aussi, mettez de côté vos intérêts. Et automatiquement, quand il y a le shalom en haut, entre Michaël et Gabriel, automatiquement en bas, il y a aussi une sorte de shalom entre eux, le bien et le mal. Ça veut dire quoi concrètement dans la vie, ça se traduit comment? Dans la vie, ça veut dire que ça nous donne beaucoup plus de facilité à combattre le Yetzara. Bien que ça n'a rien à voir normalement. Quel rapport entre le fait que j'ai fait un effort dans une mitzvah et le fait que j'aurai plus de mal à combattre mon yetzara? Ça n'a rien à voir, c'est pas lié. C'est lié, si, c'est lié. Parce que quand tu as fait cet effort-là, tu as montré l'exemple aux anges, et quand tu as montré l'exemple aux anges, en haut ils ont fait le shalom, et quand en haut ils ont fait le shalom, automatiquement en bas ça pousse aussi le shalom. Le shalom entre qui et qui? Le shalom entre le bien et le mal. Donc automatiquement dans ta vie, ça t'aide à mettre de côté le mal pour mettre le bien. Voilà pourquoi on dit Ose shalom imromav, ou yaase shalom aleinu valkol Israël. Ose shalom imromav, celui qui fait le shalom dans les cieux suite à nos actions, grâce au shalom qui est en haut, il fera le shalom en bas. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui on s'arrête un quart d'heure plus tôt, parce que je dois aller à la rue Petit-Fabringen. Mais en tout cas, le message très fort qu'on retient d'ici, c'est que tout ce qui se passe en bas est lié directement à ce qui se passe en haut. Et des fois, pour changer un événement en bas, il faut d'abord le changer en haut. C'est pour ça que des fois, vous allez voir un tzaddik, tu viens là pour un problème, il te dit, fais vérifier tes mezouzot. Quel rapport avec les mezouzot? D'accord? Il te dit, t'as un problème, fais vérifier les mezouzot. Quel rapport? Je veux bien que c'est important de faire vérifier les mezouzot. Je te l'accorde, y'a pas de problème. Mais quel rapport entre les mezouzot et mon problème? Alors, t'en as qui vont te dire, oui, écoute, tu montres à Dieu qui fait un effort, lui aussi va faire un effort. Mais c'est pas ça, parce que les tzadikim, ils savent exactement quoi demander, pourquoi. Des fois, il va te dire, fais vérifier les mezouzot, des fois, il va te dire, fais vérifier les tefillin, des fois, il va te dire, mets les tzitzit de katan, des fois, il va te dire, quel rapport? Pourquoi? D'où le tzadikim sait quel mitzvah il faut donner? Il a un radar qui lui dit, tel mitzvah il faut faire? D'où il sait? La réponse est très simple. C'est que le tzadik, quand il voit le problème en bas, il comprend que le vrai problème n'est pas en bas, le problème est en haut. La force du tzadik, c'est qu'il dit, si tu veux régler le problème en haut, fais cette mitzvah. Cette mitzvah va régler le problème en haut. Une fois que le problème sera réglé en haut, automatiquement il sera réglé en bas. C'est du gâteau. Ça veut dire, Je vais essayer de donner un exemple. C'est comme si vous avez, par exemple, vous avez deux ministères. Vous avez deux ministères. Et dans les ministères, vous avez les ministres et vous avez les employés. Donc les employés, forcément, deux ministères qui sont concurrents. Donc ils ne peuvent pas se voir les uns les autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, le ministre de la Défense et le ministre du Budget. Donc ils ont des intérêts qui sont en conflit parce que un il veut claquer de l'argent, l'autre il veut au contraire ne pas en dépenser. Donc les ministres, si les ministres ne sont pas d'accord, automatiquement les employés eux aussi, ceux qui travaillent sous eux aussi ne s'entendent pas. Si tu veux faire le shalom entre les ministres, entre les employés, on te dit tu pourras jamais faire le shalom si les ministres continuent à être en guerre. Quand tu fais le shalom en haut, automatiquement ça répare en bas. D'accord? Mais des fois, qu'est-ce qu'on voit? Des fois, une petite action qui se passe en bas va pousser en haut à faire le shalom, et quand en haut on fait le shalom, automatiquement les choses changent en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, qui c'est qui fait l'actualité en haut? C'est nous. C'est extraordinaire. Et en faisant l'actualité en haut, on fait l'actualité du bas. C'est-à-dire, ça nous revient. Mais c'est nous qui faisons l'actualité d'en haut. Il n'y a rien qui se passe en haut sans l'accord des hommes. C'est pour ça qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer l'homme, il a demandé aux anges. Il a dit, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on crée l'homme ou on crée pas l'homme? Qu'est-ce que Dieu a répondu?
Qu'est-ce que
les anges ont répondu? Il a dit, laisse tomber. L'ange a fauté. Qu'est-ce que Dieu leur a répondu aux anges? Il a dit, c'est l'homme qui vous sauvera. C'est l'homme qui montrera la gueule. Lui, il vous dépassera. Pourquoi? Parce que un ange, c'est comme une machine. Ça veut dire qu'un ange ne sait pas ce que ça veut dire mettre ses intérêts de côté. Il est programmé. Il n'a pas le libre arbitre comme un homme qui est capable de mettre de côté ses intérêts et de dire je me mets de côté pour Akadosh Baruch Hu. Il y a ça, il n'y a qu'un homme qui est capable de le faire. L'homme dépasse l'ange. Voilà pourquoi j'ai fini avec ça pour aujourd'hui. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans une prophétie d'Ézéchiel, il compare les anges à des stationnaires et les hommes à des personnes qui marchent. Il juxtapose les hommes et les anges et il dit les anges sont stationnaires et les hommes marchent. Pourtant, nous, on peut dire que c'est le contraire. Les anges, c'est les anges, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Nous, les hommes, c'est tout juste si on avance. C'est déjà pas mal, c'est rancune.
Les hommes, ils sont à aboutir, les hommes, ils sont à aboutir.
Non, justement, ce qu'il dit, ça veut dire quoi? Quand on dit stationnaire, ça veut dire quoi stationnaire? Stationnaire, ça veut dire qu'ils bougent pas. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire faire un effort. Alors que l'homme, il bouge. Maintenant, quand on dit il bouge, il peut.
Aussi qu'ils sont stationnaires dans le sens où ils n'ont pas besoin d'évoluer, ils ont déjà atteint la perfection.
Non, ça veut dire qu'ils peuvent ni atteindre la perfection, ni atteindre la faute. C'est comme une machine. L'homme, il peut avancer comme il peut reculer. Mais parce qu'il peut reculer, c'est pour ça qu'il peut avancer. Alors que l'ange, il ne peut ni reculer, ni avancer. Donc, lequel est plus fort? Lequel est plus fort? C'est l'homme. Et c'est l'homme qui fait l'actualité. Donc avec ça, on comprend ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit.
Il y a des anges quand même qui ont.
Il y a des anges qui ont bougé
quand même.
Le seul cas où les anges qui ont bougé, c'est les anges qui sont descendus en bas. Dans la paracha Bereshit, on nous parle des fameux anges qui sont descendus en bas. Et d'ailleurs, catastrophe.
Pourquoi?
La débauche.
Ah oui.
C'est le père de la débauche. Et des anges qui sont descendus en bas.
C'est devenu comment?
Avant, ça doit encore. Ils partaient les uns avec les catastrophes. Alors après, chaque fois que les anges en haut, mais c'est en vérité, c'est pour notre bien ça, parce que le Midrash raconte. Les Bnei Malachim. Après, on nous raconte, on nous parle des Bnei Malachim, et c'est pour ça qu'on nous raconte qu'en vérité, c'est pour notre bien, parce qu'après, chaque fois que les anges venaient accuser les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu leur disait, ne parlez pas à leur place, parce que vous, on vous a envoyé, regardez ce qui est devenu. Ça veut dire que l'homme dépasse les anges. Un ange n'est pas capable de gérer les situations qui se passent en bas. Donc je termine. On est en train de dire que... Qu'est-ce qu'on disait sur l'ange... Qu'est-ce qu'on disait? Je disais juste avant, parce que tu m'as interrompu.
Stationnaire.
Alors, voilà. Statique. Donc, statique. Donc ça veut dire que les hommes dépassent les anges. Donc avec ça, on a expliqué la notion de shalom. Donc aujourd'hui, on a eu deux notions. On n'a toujours pas répondu à la première question. On a dit que dans Isaïe, il parle d'action de Tzedaka et de travail de Tzedaka. Quelle est la différence entre les deux? On n'a toujours pas répondu à la question. Mais on a eu plusieurs notions aujourd'hui. D'abord, on a expliqué la différence entre le shalom et la tranquillité. Lequel est le plus fort entre les deux?
Shalom.
C'est le shalom. On a dit la tranquillité, ça ne veut pas dire le shalom. Et le shalom, c'est pas la tranquillité. Tu peux avoir deux personnes qui décident de faire le shalom, mais que il y aura encore des frictions parce qu'on a, décidé de...
Tous les jours.
Tous les jours, ça. D'accord? C'est-à-dire, on fait le shalom, mais concrètement, comme on continue à se côtoyer, donc il y a toujours des petites frictions. Donc le shalom n'est pas la tranquillité n'est pas le shalom. Mais on a pris une nouvelle notion très forte. On a dit que les événements du haut sont gérés par les événements du bas, et que ça nous revient en boomerang. Ça veut dire que normalement, avant qu'on avance, on avait une situation qui était bloquée en haut et en bas. Et quand nous on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on met nos intérêts de côté, automatiquement ça fait le shalom en haut, et puisque ça fait le shalom en haut, ça nous aide à nous aussi dans notre vie en bas, qu'on arrive à faire le shalom entre les forces du bien et les forces du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à mettre de côté le mal, d'accord,
qui fait avancer les choses.
C'est
bah oui, c'est les chemins qui fait avancer les choses.
Voilà, ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que concrètement, si on, parce qu'il faut toujours avoir un enseignement concret, concrètement, si une personne voit qu'il a du mal dans sa vie à mettre de côté et à casser son Yetzer Hara, c'est-à-dire qu'apparemment son Yetzer Hara est plus fort que son Yetzer Tov. Il voit que le mal est plus fort que le bien. Il a du mal. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, prends une mitzvah au hasard, peu importe la mitzvah, dans laquelle tu vas la faire à fond. Tu vas mettre de côté complètement tes intérêts. Tu vas la faire pour Dieu à fond, à 100%. Et quand tu vas montrer ça à Kadosh Baruch Hu, automatiquement tu feras le shalom en haut, et automatiquement ça t'aidera dans les autres mitzvot aussi à combattre ton Yetzer Hara. Ça veut dire que casser le Yetzer Hara sur une mitzvah peut nous aider à casser le Yetzer Hara sur d'autres mitzvot. Alors la semaine prochaine, on expliquera Bezrat Hashem la différence qu'il y a entre l'action de la Tzedaka et le travail de la Tzedaka. Et il expliquera en vérité comment, quand on donne la Tzedaka, on va avoir exactement le même conflit. Qu'est-ce que ça veut dire donner la Tzedaka? Bon, c'est ce qu'on expliquera la semaine prochaine. En vérité, donner la Tzedaka, à quel moment on peut dire que dans la Tzedaka, j'ai mis de côté mes intérêts? Parce qu'on a tous des intérêts quand on a la Tzedaka. Je vais vous dire, même des intérêts spirituels. On te dit, par exemple, la Tzedaka...
Non, mais c'est
très... une grande question, ça. La Tzedaka sauve de la mort. Eh ben oui, c'est un argument, ça. D'accord? On te dit, ou bien par exemple, un autre argument de la Tzedaka, c'est, tu vas acheter avec ça, par exemple, de l'étude d'une yeshiva. Tu vas acheter avec ça le fonctionnement d'une synagogue. Donc, tu as quelque chose en retour. Est-ce que tu peux dire que tu l'as fait que pour Dieu? Non, c'est pas que pour Dieu, c'est pour toi aussi. Donc, qu'est-ce qu'on appelle pour Dieu, qu'est-ce qu'on appelle pour toi? Ça, c'est une question très compliquée.
Très compliquée.
Ce qu'on va, expliquer la semaine prochaine, mais ça, il nous faut un cours que sur ça. C'est la différence entre l'action et le travail. Non, très compliqué.
Même pour y arriver, est-ce qu'il y a des remèdes? Même pour
c'est sûr qu'il y a des remèdes.
Même pour y arriver, c'est très compliqué.
Il y a des mitzvot.
Je vais mettre les tchines pour Dieu.
Certaines mitzvot. On expliquera la semaine prochaine qu'il y a certaines mitzvot qui sont liées à une autre neshama. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois mitzvot, des fois même une mitzvah, qui est liée particulièrement à notre neshama. Et cette mitzvah, autant on aura beaucoup de mal à la faire, parce que c'est le Yitzhara sent que c'est la bonne, c'est la mitzvah dans laquelle on peut exploser. Mais autant, quand on réussit à percer dans cette mitzvah, on peut réussir à la faire l'ishma que pour Akadosh Baruch.
Comment on la trouve?
Ça, on va expliquer son problème. L'action de la Tzedaka, le travail.
Comment on la trouve? Mais je reviens, c'est maintenant.
D'accord.
Mais allez. Si on savait c'est quoi qui reste, c'est plus là. Parce qu'une fois que t'as fait ton but, c'est arrivé.
Il faut chercher.
Vas-y, cherche. Alors la question.
Là, tu nous as pas reçu.
Ça, c'est en fait, c'est les attentes.
On a réunion le 9, là.
Que là, on le fait dit.
Avec Samuel. Kadosh Baruch Hu, parmi nous.
Ça, c'est un enseignement qui vient du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est l'auteur du Rosh Rabban. Mais tout ce qu'il a dit ici, il n'a rien inventé. C'est une compilation qu'il a fait de textes qu'il a pris du Zohar. Tout ce qu'on dit ici, c'est basé sur le Zohar. Il n'y a rien qu'il a inventé. C'est basé sur les textes du Zohar et du Maharal de Prague.
Oh, il va bien, là.
Mais il fait toujours. Seulement, sa force, c'est qu'il a compilé ça dans un texte qui, voilà, tu vois, qui est compréhensible. Parce que tu prends le Zohar et tu prends même le Maharal de Prague, c'est tu vois, comme ça. Et sa force, c'est qu'il a réussi à compiler ça.
Ça va, t'as besoin de.
Tu vois ce que je veux dire?
J'ai compris. Serge.
Moi, ce que je comprends pas. Ah oui, il y a Serge, mais malheureusement.
Qui c'est Serge?
Comment?
Non. Serge, c'est le dixième.
Comment? Ouais, il est là. Il est
Shlomo, toi, non. Même s'il a pris.
Il vient Shlomo, non. Il vient Shlomo,
non. Non, il a pris en queue.
Que en haut, c'est comme ça.
Non, c'est moi qui suis en haut. Shlomo,
il est. C'est, on te dit.
Il est là, quoi.
Tout le monde est là.
Tout le monde est là.
Tu vas réussir.
Mais non, mais il est là, là. Il a jusqu'à descendre. Il a pu faire.
Pour Akadosh Baruch.
Il y en a plein qui habitent jusqu'à là. Il y a que des gens qui appellent d'un.
Réparer.
Dan Kadosh.
Comme ça, réparer là-haut. Ça va se séparer en bas.
Tu es d'accord?
Ça va s'arranger en bas ou ça va
t'exploser? Il restait des choses. Il restait des choses. Il restait des choses. Il restait
des choses. Ça y est, on l'a tiré tout aussi.
Si vous voulez, après
9h, si vous voulez. À quel moment dit l'eau, c'est
chaleur?
Si elle est
Parce
qu'il reste des olives. C'est quoi la c'est pas évident. C'est moment de recueillir dans la
catégorie.
Donc si on le met à la conclusion et pas au début, ça veut dire que le shalom qu'il y a dans les yeux doit venir forcément entre le travail personnel.
C'est pour ça
que
j'ai dit.
C'est logique, c'est une logique. D'abord, tu fais ta mida, tu fais ton travail personnel. Après, on te dit, oh, c'est shalom, Imromam. Suite à ta amida, Dieu fera le shalom. Et après, on te dit, où il y a assez shalom, aleinu. Qu'en vérité, ce shalom, qu'il a fait en haut, il va revenir sur toi et pas que sur toi. Ça, on expliquera la semaine prochaine aussi. Ve'alkol Israël. Ça aura une influence sur tout l'âme Israël. Ça veut dire que quand moi, je vais casser mon Yitzhara, ça va non seulement m'aider à moi à casser mon Yetzarara dans d'autres Averot sur lesquels j'ai des difficultés, mais ça m'aidera même à mettre de ça aidera même d'autres juifs à mettre de côté leur Yetzarara.
Il
faut revenir à la prochaine sur ça, parce que ça c'est une notion qu'il faut. Il faut un cours que sur ça.
Ah oui,
c'est
juste bleu blanc.
Le bac.
On ferait fouacher les mains pour Samuel, il mérite, non?
Bien sûr. J'ai pas goûté encore alors. David, lequel tu me conseilles?
Tunisien.
Ton ou saumon?
Est-ce qu'il connaît mes goûts, lui?
Ton ou saumon? Ce soir, tu veux un peu d'arrivée?
Non, je t'en prie.
Prends le saumon là.
Saumon.
Ça c'est saumon?
Non, pardon. Il est plus léger celui-là.
D'accord. David, il connaît mes goûts. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Borei minei mezonot.
Amen.
Encore bon.
Avec.
Ça va? Ça c'était pour moi, David?
Oui.
D'accord, merci.
Un petit très fois chez les mains pour.
Avec, hein?
Une grande.
Enfin, vous êtes venu, vous avez tenu parole. Hein.
Bah, il faut revenir.
Bah, attends.
David Razak pour le recrutement. Hein.
Bah, ouais.
Ouais, mais il pensait que j'étais un blagueur et moi je pensais que c'était des blagueurs.
J'ai pas de
problème. Et finalement, on blague pas.
Non. Alors vous savez qu'on va bien, on va bientôt finir le livre dans quelques semaines. Après, on va recommencer un cycle, si Dieu veut. C'est très intéressant.
Vous savez que quand on aura fini le livre, ma chérie sera là.
Dans combien de temps? Amen.
Quand on aura fini de dévoiler toutes les sources de là. C'est d'autres. Ma chérie, elle arrive.
Pour moi, il arrive dans 4 jours. Que c'est...
Et Maya, toi?
Chacun son. On finit le livre.
Tu as vu qu'est-ce qu'ils ont dit sur Bougarache, le pic de Bougarache?
David, alors.
C'est une montagne retournée, il appelle la montagne retournée.
Quoi?
Parce que le haut de la montagne est plus ancien que le bas.
Avec plaisir.
Alors lundi prochain, Sushi, d'accord.
Sushi, lundi prochain? Avec tes baguettes?
Ah
oui. Après, on fait une caisse comme on faisait avant?
Non, on fait une caisse maintenant.
Dans le temps, on faisait une caisse.
On fait une caisse. Là, tu vas pas...
Pour l'instant, j'offre. Quand vous serez rodé, on verra. Quand vous aurez le mérite de pouvoir participer...
On va jamais se roder. On va jamais se roder.
C'est une petite gare, je crois. Ouais,
est-ce que c'est un effort pour toi d'offrir?
Est-ce que c'est un effort pour moi?
Ouais.
Quand tu pourrais qu'à deux fois au rouge.
Non, mais tu les as fait déjà.
Voilà, l'argent, il sert à quoi pour moi?
Oui, le deuxième,
c'est
le
deuxième, là, pour les filles, 74.
Comme dans la chanson, donne.
Va bien, 62, 63.
Ouais, c'est celui-là, ouais.
L'argent, il sert à quoi pour moi? Problème. Attends, je vais le
marquer. Vérité. Ça, c'est tunisien?
Non.
C'est imitation. Hein.
C'est oh, même de loin, arrête.
Arrête ça, imitation. J'ai mis des câbles.
Non, c'est bon, Bokhachev.
Attends, avant de parler.
Il y a le goût, il y a le goût.
Ok, le pain, c'est pas
le pain. C'est pas le pain italien, mais c'est pas mal. Il y a le goût tunisien.
J'ai mis la rue,
ça. Ça va, on s'en parle, ça.
Non.
J'ai mis des concombres. C'est le vrai tunisien,
je te dis.
J'ai mis des câbles.
Et le citron.
J'ai mis le citron belgique.
Ta préparation est au top.
J'ai mis quelques
pains. Il n'y a que le pain qui est pas tunisien.
Ouais, mais le pain tunisien,
c'est du pain italien, c'est du pain italien.
Le pain tunisien, moi je n'arrive pas à le manger.
Ah, c'est pas venir à 4 heures.
C'est ça pour mettre de l'huile, sinon tu l'avales pas.
C'est pour ça qu'ils mettent de l'huile.
Il y a là tout ça.
Ah, c'est le pain italien, il est très dur. Oui.
Très dur.
C'est pourquoi on appelle ça le pain italien. Les boulangeries en Tunisie, c'est les Italiens.
Tu l'as vu, je crois.
Toutes les boulangeries, c'était les Italiens, on avait un à la Marseille.
C'était des Bournais?
Non, des
Italiens, puisque c'était sous domination
des Italiens.
On peut y parler l'italien couramment,
bien sûr. Mais il y a les Livournais déjà,
bien sûr.
Non, mais les Livournais, ça c'est un autre.
C'est notre jeu.
C'est des anciens qui ont fui l'Inquisition, les Livournais.
Mais Dalia, ils sont Livournais, je crois, c'est ça?
Je sais pas, peut-être.
Il est marocain.
Et mes sushis, tu
vois? Non,
c'est pas des Tunisiens.
Ah ouais, bon, mais c'est pas loin.
Enfin, Yves est Tunisien, oui, d'origine, mais je sais pas si toi tu fais référence à.
Non,
Grana,
plus ancien.
Je suis pas marocain, moi.
Je suis suédois.
Je crois que d'origine, c'est un Livournais.
C'est algérien.
Ah bon?
Hein, Yves, c'est ça? C'est ouais. Livournais.
C'était deux communautés à part. Ils avaient leur bêtise, ils avaient tout. Hein.
Bien sûr.
Ah ouais, les Livournais,
leur rabat, c'est la classe. Avec Grana.
C'est la classe.
Et l'autre, c'est Tunisie.
Léo, d'ailleurs.
C'est vrai.
Ah, les Italiens,
c'est comme les au Maroc, il y avait ceux qui venaient d'Espagne et ceux qui venaient des locaux.
Il n'y avait pas Kazaïdes.
Je sais comment ils les appelaient, mais...
Ah, il y avait un autre.
Les Juifs d'origine espagnole.
Pas Kazaïdes qui vivaient.
Non, ils sont mariés à Marseille, d'ailleurs.
Les autres, les forestiers.
Il est parti à Marseille, on s'est vu là-bas.
C'est
par alliance.
Bon, alors, tous les lundis soirs à 8h30, on va essayer de commencer à l'heure, si tu veux. D'accord. Et
j'étais là 8h30.
Hein 8h30 et on finit en général vers 10h moins quart.
C'est grâce en partie à la chef. Non.
Ça veut dire que tu vas venir ou c'est un one shot?
Ne précipite pas, Yosef. Laisse le fleuve rejoindre la mer.
C'est bête ton image.
Vas-y, le l'eau rejoint ta source.
Tu vas être en retard. Ça commence tard.
Non, je vais... Yves, c'était tout ça pour toi, t'as mangé.
Ça commence tard, mais ça finit tard.
Tu ne manges pas.
J'ai mangé.
Il n'a pas envoyé des SMS.
Il n'a pas aimé ce qu'il a fait David.
Je n'ai pas fait attention aux SMS. Si, bien sûr que j'aime ce qu'il fait David. Je suis premier à le vanter que c'est les meilleurs sandwichs de Paris.
Bon, est-ce que je vous mets sur la liste du con?